Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Faut se méfier des fausses ingénues. Parfois, elles sont prodigieuses. Ainsi, Sarah Giraudeau, a priori d'un angélisme hypnotique, mais pourtant faite d'un matériau qui ne rompt pas. Éric Rochand ne s'y est pas trompé, qu'il a choisi pour incarner une espionne dans la série culte de Canal Le Bureau des Légendes, dont le New York Times en 2019 disait que, en fait, il s'agit de la série d'espionnage la plus intelligente et la plus crédible au monde. Mais Sarah Giraudeau fait merveille également au théâtre et au cinéma qui respectivement l'ont couronnée d'un Molière et d'un César. En attendant que rouvre le théâtre du Rond-Point à Paris où elle jouera Le syndrome de l'oiseau, sa toute première mise en scène, eh bien Sarah Giraudeau est à découvrir sur une série de podcasts que met en ligne justement le théâtre du Rond-Point sur son site, donnant la parole à Isabelle Huppert, à Jean-Michel Ribes, à Daniel Pénac, voilà. Mais sans attendre, tout de suite et sur Europe 1, eh bien on part en balade avec Sarah Giraudeau.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Alors il faut qu'on révèle à nos amis auditeurs que en fait, on fait cette émission dans des conditions un petit peu particulières parce que vous êtes chez vous à la campagne, Sarah, c'est ça ?
Exactement.
Voilà, miracle de la technique, on appelle ça le report it. Alors, tout de suite, ma première question, Sarah Giraudeau. Vous ne ressemblez pas à votre voix. Vous n'êtes ni fluette, ni enfantine, ni fragile. Vous avez un feu intérieur, une force et une détermination farouche. Est-ce que c'est un atout pour un acteur de ne pas ressembler à sa voix ?
Oh, je pense que oui, je pense qu'on prend ça comme un désavantage au départ et puis on se rend compte petit à petit que c'est certainement un atout, mais c'est les autres qui nous le font comprendre, au départ, c'est un peu compliqué à accepter, mais tout ce que vous avez dit, je l'ai aussi. Hein. Je suis un petit peu enfantine, je suis un petit peu fragile aussi. Tout ça est un mélange.
Mais par exemple, Fanny Ardant aussi a une voix très singulière, mais on a le sentiment que sa voix lui ressemble à votre, Sarah. Elle a intrigué parfois, dérouté, n'est-ce pas, certains réalisateurs. Est-ce que inconsciemment vous en jouez de cette voix ? Est-ce que la douceur peut être une arme ?
Non, j'en joue pas du tout. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte après à la rencontre avec Éric Rochand que cette contradiction entre un extérieur et un intérieur pouvait être intéressant. Alors après, non, je suis pas amenée à en jouer, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être un mélange intéressant et je comprenais pourquoi c'était intéressant pour certains rôles.
Ouais, et nous on l'a compris en vous voyant dans Le Bureau des Légendes. Alors, il paraît que votre professeur de théâtre, Jean Périmoni, au sujet de cette voix flûtée d'une douceur hypnotique, il vous a appris en fait à l'aimer, cette voix. Au départ, vous aviez le sentiment, quand vous vous présentiez comme ça, que peut-être elle pouvait créer une confusion.
Oui, mais c'est vrai que c'est là où c'était un très bon prof de théâtre. C'est vrai que c'est tout ce qu'on peut avoir chez nous qui est une particularité. C'est-à-dire que les particularités, voilà, où ça rentre pas dans une normalité, on va très vite être complexé par ce petit détail. Alors moi, ça va être la voix ou d'autres choses, mais chaque personne a ses propres particularités dont il peut être un peu complexé au départ. Et en fait, selon lui, il fallait justement l'accepter et le travailler et surtout le garder. Parce que c'est ce qui allait faire partie de nos vraies qualités prochaines, quoi. Quand on allait devenir comédien, il y avait quelque chose où, sans s'en rendre compte, ça allait devenir nos atouts les plus chers. Donc voilà, sans m'en rendre compte, ma voix, maintenant tout le monde m'en parle. Et donc je pense beaucoup à mon Jean Périmoni qui m'avait dit ça et il avait fort raison.
J'évoquais le casting du Bureau des Légendes avec Éric Rochand qui vous ont donc choisi pour c'était un rôle particulier quand même, celui d'espionne pour la DGSE. Vous dites qu'en fait le fait d'avoir été ainsi choisi, alors qu'il paraît que vous alliez à ce casting en étant persuadée de ne pas être prise, hein, il paraît que ça a changé le regard à la fois du métier sur vous, c'est-à-dire des gens de cinéma et du public, alors que vous aviez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre auparavant.
J'avais fait beaucoup de théâtre, mais le théâtre, il y a un mystère qu'on perce assez rapidement. Peut-être parce que la scène a quelque chose de brut, de direct. Donc chez les metteurs en scène aussi, il y a peut-être un échange avec eux qui est assez direct. Au cinéma, c'est plus particulier parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle l'image. Et donc c'est un monde aussi où, au départ, qui s'attache beaucoup à ce que vous émanez de l'extérieur, ouais, sans savoir ce qui se passe forcément à l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, l'image a pris du temps à venir, ou en tout cas à correspondre à qui j'étais, parce que ce que j'émanais de l'extérieur, effectivement, évoquait quelque chose de fragile, de très doux. Donc ça pouvait ne pas correspondre avec certains rôles.
Vous étiez impatiente qu'on vous comprenne enfin.
J'étais un petit peu impatiente, mais après je m'étais fait une raison aussi. Je m'étais dit bon, ben le théâtre c'est magnifique, c'est aussi une très belle vie de faire sa vie au théâtre. Et puis certainement j'allais faire très peu, voire peut-être pas de cinéma. Et puis au moment où je me suis dit ça, c'est souvent quand on lâche un petit peu les choses qu'on fait des très belles rencontres. Donc la rencontre avec Eric s'est faite à peu près à ce moment-là.
Voilà. Alors Éric Rochon, effectivement, c'est attaché à la force insoupçonnable qu'il y avait en vous, Sarah Giraudot, masquée par, parfois, j'ai presque envie de dire, l'image caricaturale du petit oiseau sur la branche. Parce que ça, vraiment, quand on lit des articles qui vous concernent, au départ, j'ai pu constater que cette formule revenait souvent. Mais alors, là où le destin est vraiment facétieux, c'est que, justement, le petit oiseau, il vous poursuit. Vous avez joué dans La valse des pingouins de Patrick Hautecoeur, qui vous a valu à Molière. Vous avez joué Colombe de Jean Anouilh. Vous avez joué L'Alouette de Jean Anouilh, toujours. Marina Loiseau, puisque Phénomène, c'était votre nom de code, mais Marina Loiseau était votre nom dans le Bureau des légendes. Et puis, la pièce de théâtre que vous avez mise en scène et que vous jouerez donc dès la réouverture du théâtre du Rond-Point à Paris, elle a pour titre Le syndrome de l'oiseau. Vous croyez en la magie ?
Je crois pas en la magie, mais je me dis qu'il doit y avoir un certain karma ou peut-être une trajectoire, mais en tout cas là c'est peut-être tout simplement le hasard, mais je le prends pas comme ça. Je me dis que depuis le départ, il doit y avoir un trajet assez intéressant par rapport à l'oiseau.
Dans la vie,
comme quoi il y a un intérieur qui correspond avec l'extérieur.
Voilà, finalement, dans la vie, Sarah Giraudot, vous avouez joyeusement être mélancolique. Vous savez d'où vient cette ultra sensibilité au monde ?
Non, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Peut-être il y a un parcours de génération en génération qui se transmet. Peut-être que le passif assez compliqué de ma maman dans ma génération le récupère, et donc il y a peut-être une porosité au monde et à la mort et à la douleur qui est peut-être plus forte que chez d'autres, mais oui, certainement.
Vous auriez...
J'ai du mal à l'expliquer.
Vous auriez aimé être psy ?
J'aurais beaucoup aimé, ouais.
C'est vrai.
Je sais pas si j'aurais pu. Après, c'est entre ce qui nous intéresse énormément et en faire son métier, c'est encore différent. Mais c'est vrai que c'est une discipline que j'aime énormément. Ça m'intéresse beaucoup dans la vie de penser en psychanalyse. Ouais.
C'est-à-dire que vous captez
sans embêter
vous...
tout le monde,
non,
hein, sans embêter mes enfants,
non,
sans
mais,
embêter tout
mais
le
vous
monde.
Mais vous captez aisément les gens autour de vous, c'est ça?
J'aime beaucoup la psychologie. J'aime vivre avec de la psychologie. Et c'est vrai que je trouve que les gens aussi ont des beaux parcours quand ils ont de la psychologie. C'est souvent des beaux travails sur soi, c'est un beau travail sur une réflexion de vie, une réflexion de l'échange avec l'autre.
C'est votre parcours. Qu'on va justement mettre en lumière, au cours de cette conversation. On s'interrompt vraiment un très bref instant, chère Sarah, et puis on reprend la balade tout de suite avec vous dans une poignée de secondes.
Avec plaisir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Ceux qui sont fans du Bureau des légendes sur Canal, et ils sont nombreux, ne sont pas prêts d'oublier Phénomène, espionne pour la DGSE, interprétée par Sarah Giraudot, comme ceux qui ont vu le film Petit Paysan, n'oublieront pas donc Sarah dans son rôle de vétérinaire qui lui a d'ailleurs valu un César. Je reçois une sacrée comédienne. Alors chère Sarah, quand on a des parents qui, tous les deux, sont acteurs, qui tous les deux sont célèbres et qui donc ont vraiment eu des vies hors normes, voilà, et des vies qui échappent totalement au train-train quotidien. Que se dit-on du haut de ces 9 ou 10 ans? On est impatient de grandir pour que ça soit notre tour, ou bien on est peut-être apeuré par le défi à relever?
Alors, je pense que l'inconscient était un petit peu apeuré par le défi à relever, mais le conscient avait surtout envie de grandir pour devenir adulte assez vite, sans trop savoir quoi en faire. Mais déjà devenir adulte, c'était mon plus grand désir d'enfant.
Vous les avez vus heureux, vos parents, vous les avez vus transportés par le plaisir de jouer et de tourner. C'était vraiment palpable. Il y avait un bonheur, de la joie à la maison.
Oui, et puis certaines inquiétudes et beaucoup d'absence aussi. Donc mais en tout cas, non, le métier d'artiste, il fait partie de la vie. C'est un art de vivre aussi. Donc c'est vrai que je me rendais pas bien compte du métier que c'était, puisque c'était complètement mélangé aussi à notre vie, entre les textes qui travaillaient à la maison, moi qui pouvais aller les rejoindre aussi au théâtre un peu quand je voulais, parce qu'ils étaient très ouvert à ce que je découvre ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que voilà, le métier d'artiste, ils travaillent tout le temps, que ce soit comédien, auteur, musicien. J'ai l'impression qu'on travaille, on travaille un peu constamment, et c'est
on
vrai
s'inspire
que
de tout, en fait.
Voilà, j'étais assez poreuse de tout, sans me dire tiens, il y a la vie et puis à côté il y a le métier. C'est un métier où la vie et les activités se mêlent assez de manière assez fascinante.
Alors, il paraît que lorsque votre mère, Annie Dupéret, incarnait Isadora Duncan au théâtre, vous alliez plusieurs fois par semaine donc voir la pièce vraiment sous tous les angles possibles, c'est-à-dire chaque fois une place différente dans la salle, ou bien cachée en coulisses, ou encore écoutant le texte depuis la loge de votre maman. Quels étaient vos emplacements favoris pour ne rien perdre de la représentation ?
Alors, je crois que l'emplacement que je préférais était en coulisses, sur le côté, à côté du régisseur, parce que j'avais l'impression d'être une petite souris qui pouvait voir secrètement ce que les gens voyaient depuis la salle. Alors même si on voyait beaucoup mieux depuis la salle, je connaissais l'histoire et j'avais besoin de voir l'intérieur du décor.
Mais alors, c'est incroyable, parce qu'une pièce, ça se joue le soir. Ça veut dire que vos camarades de classe, parce que je ne sais pas, vous aviez genre une dizaine d'années, peut-être. Vos camarades de classe, elles, étaient à la maison, elles avaient terminé leurs devoirs, il fallait qu'elles aillent se coucher, et vous, vous étiez en fait au paradis.
J'étais au paradis, voilà, c'est ça. Je sais pas si on utilisait les vacances, peut-être maintenant petite, c'est très très loin, donc j'avais l'impression d'y être vraiment tout le temps, mais non, certainement j'y étais pendant les week-ends, pendant les vacances, et c'est vrai que le plus de fois où je pouvais y être, j'en profitais.
Vous connaissiez la pièce par cœur, vous vous projetiez, Sarah, à la place de votre maman, parfois ?
Non, pas du tout. Je me sentais par contre au théâtre comme chez moi. Donc c'est vrai que je vaquais entre les coulisses, les loges, la salle, et d'ailleurs ça m'a valu une fois de passer sur scène pendant qu'ils étaient en train de jouer.
Ah oui.
Sans m'en rendre compte. Voilà, je me sentais tellement chez moi qu'à un moment donné je suis passée. Donc ils ont dû voir une adolescente passer dans le fond du décor, mais non, j'ai jamais désiré forcément être à leur place. J'étais juste encore une fois très imprégnée de l'univers et de l'ambiance dans laquelle j'étais.
Sarah Giraudot, la première fois que vous êtes retrouvée au cœur d'un tournage, face à des caméras, vous aviez 11 ans, et c'était en Casamance où votre père réalisait un film d'une beauté poignante sur un gentilhomme exilé en Afrique en 1787 et pris par les sortilèges justement de l'Afrique, alors que la révolution en France n'avait plus grand sens pour lui. Ce film, bien sûr, c'est Les Caprices d'un fleuve. Sans que vous en doutiez, est-ce qu'elle a été fondatrice, cette première expérience ?
Oh bah oui, encore une fois, c'était une imprégnation. C'est une imprégnation d'une ambiance, et puis d'une ambiance de création où sur un tournage ils sont beaucoup plus. Et je me suis très vite rendu compte de cette petite fourmilière dans laquelle chacun a sa place, a son action, et où tout ça est très agréable. Donc c'est vrai que j'étais encore une fois une observatrice assez
privilégié.
Assez privilégié.
Mais ça devait en plus être fascinant de voir votre père en chef d'orchestre, parce qu'effectivement, c'est tout un monde. Ça grouille de personnes qui, chacune, ont une mission bien précise. Mais votre père, votre héros, dirigeait tout ça. Il jouait.
D'une main de fer. Hein, quand je dis d'une main de fer, c'est que voilà, j'étais spectatrice de quelques colères, qui lui étaient tout à fait connues. Voilà, il avait une personnalité
au nom de l'exigence.
De feu.
Ouais.
Au nom de l'exigence, mais parfois au nom de son exigence à lui, qui n'était pas forcément la même pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est là où je me rendais compte aussi qu'être un chef d'orchestre, c'est compliqué.
Alors, voilà. Tourner dans un film que dirige son père, bon, c'est quand même vertigineux, c'est la vie elle-même qui devient un film. Quand on est enfant, on a 11 ans, c'était votre cas. Est-ce que finalement, en fait, la fiction infuse la réalité, ça déborde complètement, on ne sait plus trop bien où s'arrête le monde réel et le monde fictif, non ?
Ah si, le monde réel s'arrêtait directement quand je retournais à l'école, puisqu'effectivement, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire de ma vie, entre guillemets, un film ou une scène de théâtre, parce que c'est vrai que la réalité, la coupure avec la réalité de la vie d'enfant n'était pas forcément évidente.
Mais c'est la raison pour laquelle vous avez tellement détesté l'école, Sarah Giraudeau.
Bah, je ne sais pas si c'est pour la raison. Je pense qu'on a des natures qui supportent plus ou moins l'école et que la mienne, je pense à la base, n'était pas vraiment faite pour une école classique. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le parallèle avec des parents qui ont une vie d'artiste, dont qui est vraiment caractérisée par une liberté. Je pense que ça fait partie des métiers dans lesquels les gens se sentent le plus libres. Et c'est vrai que à l'école, c'était l'endroit où je me sentais le plus emprisonné à tous les niveaux. Donc c'est vrai que je passais de l'un à l'autre et peut-être que cette vie d'artiste dans ma vie personnelle ne correspondait pas du tout à une vie scolaire et c'est vrai que la contradiction devait peut-être être trop grande. Mais en tout cas, ma nature ne fonctionnait pas bien non plus avec l'école.
Alors il paraît, Sarah Giraudeau, que vos parents, donc Annie Dupéret et Bernard Giraudeau, ont réagi de manière très très différente quand vous avez révélé votre désir de devenir actrice, c'est vrai ça ?
Oui, parce qu'il y en a une qui est très désinvolte et très confiante, et puis il y en a un autre de l'autre côté qui est très exigeant et très très angoissé sur ce qu'était le métier aussi à l'époque. C'est vrai que c'est un métier que l'on peut voir extrêmement libre, mais que l'on peut voir aussi extrêmement dangereux parce que il est fait d'incertitudes. Donc
il a fallu que vous fassiez le mix de tout ça.
Bah oui, il y avait un mix confiant et un mix angoissé. comme dans beaucoup de fratries, je pense.
Mais vous avez réfléchi assez longtemps ou bien vous êtes jeté à corps perdu dans l'aventure ?
Non, c'est devenu assez clair quand j'ai intégré les cours de Jean Périmoni où cette liberté, je l'ai sentie tout de suite. Et puis j'ai senti qu'il y avait beaucoup de travail, comme chez tous les acteurs, mais que ce travail, il était encore rempli de liberté et de bonnes choses et de psychologie aussi encore. Donc ça mélangeait un petit peu tout.
Deux mots que vous affectionnez, liberté et psychologie. Ils reviennent souvent effectivement dans votre discours. N'est-ce pas ? Alors, chère Sarah, on fait une pause et puis on reprend la balade tout de suite après. C'est en compagnie de Sarah Giraudeau qu'on se balade cet après-midi et la promenade est belle. Alors, chère Sarah, le théâtre est devenu votre maison, Sarah Giraudeau, et vous avez tout de suite été célébrée puisque première pièce, directement, Molière de la Révélation féminine en 2007 pour votre rôle dans La Valse des Pingouins. Dans la salle, votre père, fier et complètement chaviré. Vous le saviez malade, votre papa, la maladie l'a emporté 3 ans plus tard, mais en prenant votre trophée, vous lui avez dit que vous attendiez impatiemment qu'il remonte sur scène. C'est quand même un moment très particulier à vivre, ça.
Oui, surtout que j'avais pas du tout prévu de dire ça. J'avais rien prévu du tout. Et puis ça m'est sorti. Je sais pas. C'est des moments où on sait pas du tout ce qui se passe par notre tête, dans notre tête. Donc c'est vrai que ça m'est sorti parce que j'avais envie. Ça me faisait très bizarre moi de me retrouver sur scène avec mon prix et que mon père ne puisse peut-être ne plus jamais y remonter. Et c'est vrai que d'ailleurs il n'y est jamais remonté.
Alors vous avez ensuite joué Shakespeare, vous avez joué Jean Anouilh, on sentait le feu en vous. Bon, pourquoi le cinéma a-t-il autant tardé à s'emparer de vous? On a eu un petit début de réponse tout à l'heure, mais est-ce que ça ne venait pas quand même pour beaucoup de vous? Quand on se sent si bien au théâtre.
Je pense pas que ce soit de me sentir bien au théâtre. Je pense que c'est peut-être que j'avais un parcours à faire avant que le cinéma ne m'ouvre clairement ses portes. Après, c'est vrai que tout ça c'est beaucoup d'inconscient. Si j'avais fait du cinéma beaucoup plus tôt, peut-être que j'aurais pas la trajectoire que j'ai là. Peut-être que j'aurais pas les mêmes rôles. Peut-être que j'aurais pas eu cet apprentissage que j'ai fait au théâtre. Donc peut-être que je m'y serais pas pris de la même manière. Enfin, je trouve que le destin aussi parfois gère bien les choses. Et c'est vrai que si le cinéma a attendu, c'est que ça devait certainement un peu attendre.
Alors le théâtre, c'est une école de l'endurance, comme peu de gens l'imaginent. Qu'on ait 39 de fièvre, qu'on ait une rage de dents ou un drame dans sa famille, on est sur scène et on joue. Ni le public ni les gens de cinéma ne réalisent tout à fait la force physique et mentale qu'il faut pour ça.
Je pense que ceux qui ne l'ont pas pratiqué, non, ne peuvent pas se rendre compte. Mais bon, comme il y a une énorme endurance à réaliser un film, hein, ou une énorme endurance à jouer le personnage principal très lourd d'un film, mais c'est vrai que c'est pas la même endurance. C'est pas une même endurance.
Qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre alors?
Le théâtre, c'est tous les jours pendant des mois avec un seul jour de repos. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose où à un moment donné, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Ah. Et en même temps, c'est toujours aussi la même chose. Donc c'est la même histoire, c'est le même rôle. Donc c'est vrai qu'il y a une endurance aussi sur l'introspection d'un personnage, sur se renouveler, sur essayer de trouver des idées, une autre créativité. Et c'est vrai que du coup, c'est une créativité qui est tout le temps en train d'essayer de parer à l'essoufflement, donc toujours en train d'essayer de se renouveler. Au cinéma, il y a quelque chose de beaucoup plus éphémère, c'est-à-dire qu'on donne tout pour un moment et ce moment-là, il est dans la boîte et puis après, on n'y revient plus. Et donc, c'est là où l'endurance est différente.
Et puis, au théâtre, comme disait Louis Jouvet, le personnage est d'abord un texte. Contrairement au cinéma.
C'est drôle parce que c'est vrai que je suis très très attachée au scénario depuis que j'ai commencé le cinéma et c'est vrai que peut-être que ça me vient du théâtre, mais je trouve que même au cinéma, un scénario très bien écrit, le personnage est déjà écrit. Après les comédiens, nous on arrive pour cette deuxième écriture, mais on a une première lecture d'un personnage qui nous paraît assez clair et qui finalement on le mélange avec des partie de nous ou des choses qu'on imagine ou qu'on a pu observer chez d'autres. Mais c'est vrai que ce soit au théâtre ou au cinéma, pour moi, l'écriture est extrêmement importante. Le métier d'auteur et de scénariste sont des métiers que je respecte et que j'admire énormément parce que ce sont eux les créateurs de tout. Nous, on apporte un autre imaginaire et une incarnation de quelque chose, mais cette chose, elle est déjà très présente quand c'est bien écrit.
Mais si on continue dans la comparaison, la vérité du jeu n'est pas la même au théâtre et au cinéma. On est plutôt dans la démonstration au théâtre. Lorsque, après, on fait du cinéma ou de la télévision, il faut apprendre à retenir, c'est ça ? Parce qu'au cinéma, la caméra, elle tourne autour de vous, elle vient vous chercher, elle entre dans votre regard. Au théâtre, il faut se faire entendre du 25e rang.
Oui, c'est vrai que au théâtre, il faut aller vers l'autre. Alors, du coup, il y a une contradiction entre à chaque fois trouver l'intériorité de son personnage pour essayer d'être le moins extérieur possible, donc de le comprendre au mieux et puis d'essayer de vraiment connaître son intériorité pour pouvoir après la aller vers le public et le sortir, c'est-à-dire l'extérioriser, mais tout en étant le moins extérieur possible. Selon moi, c'est parce que je trouve qu'au théâtre, c'est très important aussi à des moments d'être dans le moins possible dans la démonstration, mais c'est vrai qu'on doit sortir de notre corps, on doit parler plus fort, tous nos gestes doivent être beaucoup plus perceptibles de loin, donc c'est vrai que tout doit être grossi et quand on arrive au cinéma tout doit être amenuisé justement. Je parle pas très bien français là en
vous
ce
parlez
moment,
parfaitement pire, bien français. Mais alors justement, chère Sarah, expliquez-nous, je veux pas être indiscrète, hein, bien évidemment je vous demande pas de nom, mais un grand comédien de théâtre, eh ben, il arrive qu'il soit médiocre au cinéma et inversement, pour les raisons que vous venez justement d'évoquer.
Bah peut-être. Après je sais pas. Certainement oui. Je pense qu'il est beaucoup plus facile en tout cas de passer du théâtre au cinéma.
Que
ça,
l'inverse.
J'en suis à peu près sûre. Que l'inverse. Parce que c'est difficile de rendre extérieur quelque chose qui nous paraît simple à l'intérieur. Ça peut tout de suite donner autre chose. Donc c'est beaucoup de travail pour que ça nous fasse pas bizarre et pour que ce que la normalité reste normale quand on doit tout grossir. Au cinéma, c'est plus facile de réduire. C'est plus facile de réduire parce que c'est le même travail de base. Moi, je trouve au théâtre et au cinéma, le travail de base, c'est de trouver cette intériorité du personnage. Et après, le cinéma, c'est comme dans la vie. Il faut juste être là et c'est la caméra qui vient vers vous. Et il faut surtout pas avoir, je trouve, d'intention démonstrative
c'est
ou
ça.
D'intention où justement, il faut sortir de soi. Faut plutôt laisser la caméra venir vers vous. Donc, il y a quelque chose qui se relie beaucoup plus à la normalité comme on est dans la vie.
En fait. En vous entendant, je me dis que vous seriez, et vous serez peut-être, une fabuleuse prof de théâtre un jour.
Il faut beaucoup de patience
c'est
pour
vrai,
être prof de théâtre.
Vous en manquez, Sarah Giraudeau, de la patience?
Je crois que j'en manque un petit peu. J'ai...
Enfin un défaut.
Non, la patience, c'est ce qu'on apprend dès le départ pour être artiste. C'est vrai que on nous dit la patience. Vous verrez, c'est il faut la prendre tout de suite parce qu'elle va prendre beaucoup de temps à venir. Et c'est vrai que c'est important. Par contre, pour être prof de théâtre, il faut une autre patience, comme être prof d'autre chose d'ailleurs. Mais il faut une autre patience parce que c'est différent. Là, on est en contact avec différentes petites âmes qui ont différents rythmes, qui ont différentes envies. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément arriver vite à des résultats. Mais encore une fois, je pense que ce qui m'intéresserait dans le métier de prof, c'est le côté psychologique. C'est comment faire arriver quelqu'un à quelque chose dont il ne soupçonne pas. Comment le faire arriver petit à petit à se libérer et à s'ouvrir. Et ça m'intéresserait. Ça, c'est très beau.
On retrouve tout de suite Sarah Giraudeau.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Méfiez-vous de l'ingénuité gracile, elle peut masquer un tempérament de feu. Je reçois Sarah Giraudeau, inoubliable dans la série culte Le Bureau des Légendes sur Canal, et à qui le Théâtre du Rond-Point à Paris, où elle jouera bientôt, on l'espère, elle jouera donc le syndrome de l'oiseau, on en parlera tout à l'heure, consacre un entretien à écouter sur une série de podcasts qui invite aussi bien Isabelle Huppert que Jacques Bonafé. Mais cet après-midi, on se balade avec Sarah Giraudeau. Chère Sarah, avec une franchise déconcertante, vous avouez, avoir un Molière ne change rien, avoir un César change beaucoup de choses. Vous avez eu les deux, alors faut nous expliquer.
Alors, je sais pas si le Molière change rien. Peut-être que j'ai été un petit peu radicale là-dessus.
Voilà.
Mais en même temps, c'est pas faux. Parce que le théâtre fonctionne moins avec ce système de prix, en tout cas à l'époque à laquelle j'étais. Et c'est vrai que les rencontres que j'ai fait après ne découlaient pas du tout du Molière, à moins que tout le monde m'ait menti et que voilà, je me sois trompée. Mais bien sûr, ça apporte toujours quelque chose, mais j'ai eu l'impression que le Molière m'a apporté plus quelque chose personnellement,
comme
une espèce de confiance, de satisfaction personnelle, comme quoi je ne m'étais pas trompée de métier. Et puis le César, c'est plus une question de place, mais ça qui nous est totalement extérieur à
ça
nous.
Ça a déverrouillé des choses dans le regard des réalisateurs qui s'interrogeaient sur vous et se disaient pourquoi pas, soudain ils se sont dit oui. Il faut absolument lui envoyer le scénario.
Oh, ça, je sais pas. Après, je sais pas si les scénarios que j'ai reçus après découlaient forcément du César, mais c'est vrai que ça apporte quand même une visibilité qui est autre que celle d'un Molière quand on joue au théâtre. Il y a une forme de quelque chose qui me ressemble pas beaucoup d'ailleurs, même pas du tout. C'est une espèce de place, de choix que vous avez maintenant dans le métier parce que vous avez eu un César, donc il y a quelque chose qui est assez luxueux.
Oui. Alors c'est d'ailleurs ce que vous dites, ça m'inspire le fait que, en fait, bon, le Molière, on l'a dit, c'était pour la valse des pingouins en 2007, le César pour votre rôle dans le film Petit Paysan en 2018. Votre père, Bernard Giraudeau, avait été nommé 5 fois au César sans l'obtenir. Votre père, prodigieux acteur. Donc, elle est étrange, la vie, quand même. Ça veut dire que c'est un métier qui n'est pas une science exacte.
Ben non, parce qu'ils ont été nommés tous les deux, d'ailleurs, beaucoup de fois au Molière, sans l'avoir non plus. Donc, c'est vrai que je me suis sentie peut-être un petit peu mal à l'aise que ce début de carrière soit un petit peu marqué par un prix et puis là par un deuxième.
Au contraire,
mais,
Sarah.
Mais après ça reste des prix, donc c'est pas très grave.
C'est pas très grave.
L'important c'est le parcours.
Voilà, exactement. Oui, voilà. Alors parlons-en du parcours, parce que là il faut vraiment, il est temps de parler de ce fameux bureau des légendes, série culte sur Canal, car il y a justement dans votre trajectoire, on peut dire un avant et un après. En décembre 2019, le New York Times a écrit que le Bureau des légendes était la série d'espionnage la plus intelligente et la plus crédible jamais tournée à l'international. Cette série, effectivement, le Bureau des légendes a été vendue dans plus de 100 pays et la DGSE avoue être fan de la série. Comment vous êtes-vous préparée à ce rôle d'espionne polytechnicienne qui parle le farsi pour pouvoir aller espionner le nucléaire iranien ?
Eh ben, tout s'est fait petit à petit. Tout s'est fait grâce à la rencontre avec Éric Rochant, qui connaissait merveilleusement bien son sujet. Alors que la plupart des acteurs, on le connaissait très très peu, parce que ça reste un métier, le métier de clandestin, et la DGSE reste un métier très méconnu. Donc c'est vrai que nous, on a découvert cet univers avec lui, et comme il avait écrit aussi le scénario en développant chaque personnage, et on a fait des séances de lecture comme au théâtre, ouais. Où toutes l'équipe a pu se rencontrer, et c'est vrai qu'il nous a dit, moi mon désir là sur ce projet, c'est de créer comme une troupe de théâtre où on va se retrouver chaque année et chacun aura son parcours dans cette histoire. Et c'est vrai qu'on faisait les lectures ensemble, et ça lui permettait aussi de mettre au jour les faces très intéressantes de ce métier, et puis les différentes facettes des personnages pour que tous les acteurs connaissent bien les autres personnages de la série.
Mais alors, dans votre rôle, Sarah Géraudeau, il y avait quand même une difficulté particulière, c'était de devoir parler le farsi. Alors le farsi, c'est une langue avec des syllabes qui n'existent pas du tout dans la langue française. Dans la vie, bien sûr, vous ne parlez pas le farsi, mais il fallait quand même parfaitement comprendre ce que vous disiez devant les caméras. Donc comment vous a-t-on coaché pour ça ?
Eh bien, j'ai eu un jeune comédien, Ash Goldey, qui avait joué d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai joué ma toute première scène dans le Bureau des légendes, qui est une scène en farsi, dans le tout premier épisode. Il y avait ce jeune garçon qui jouait en face de moi un interrogateur. Et donc, je l'ai retrouvé pour l'année d'après, pour qu'il me coache en farsi. Donc effectivement, il m'a appris comment lire le farsi, et donc du coup j'ai on a traduit toutes les scènes et j'ai pu les apprendre.
Et donc ça veut dire que vous êtes doué pour les langues, parce que ça n'a pas posé de difficultés particulières.
Pour les langues, je n'en sais rien, mais si, c'était très difficile, mais en même temps, je pense qu'on a plus ou moins de facilité avec certaines langues, et que là, le farsi était une langue qui me plaisait beaucoup. Effectivement, il y a très peu de sonorités qu'on peut trouver en français,
oui.
Et c'est des sonorités qu'on peut trouver d'ailleurs dans différentes langues, notamment l'espagnol, l'arabe, le français. Il y a quand même le R un petit peu français aussi. Et quelque chose qui appartient totalement au persan, que j'ai trouvé magnifique. Donc, quelque part, je l'ai pris un peu comme un chant. Parce que c'est une langue où il y a une mélodie aussi très claire, et donc que je retrouvais chez les comédiens iraniens et que je retrouvais dans les phrases. Et c'est vrai que du coup il y avait quelque chose qui s'alliait assez bien avec ma personnalité. Alors il y a eu beaucoup de travail, mais je pense qu'une langue aussi s'allie ou pas avec votre personnalité.
Alors il paraît que à chaque nouvelle saison du Bureau des légendes, des épisodes étaient projetés à des agents de la DGSE. Est-ce que vous avez assisté à ces projections ?
C'était pour bien. Je n'ai pas assisté aux projections, mais j'ai assisté à l'après. À chaque fois, ils regardaient les trois premiers épisodes et puis on les retrouvait pour un débriefing.
Ils validaient la véracité de l'intrigue, les enjeux politiques.
Il validait avec une grande intelligence la plupart toute la série, en fait.
Ils ont tout validé, quoi.
Ouais, ils ont tout validé, tout en sachant très bien qu'effectivement, la fiction était présente aux endroits où il fallait qu'elle soit présente, parce que sinon, il fallait bien que ça en fasse un film et une série. Pour ça, il faut bien y rajouter de la fiction. Donc que les choses, en tout cas, qui n'étaient pas reliées au réel, étaient indispensables pour pouvoir en faire cette fiction. Mais sinon, ils étaient incroyablement
surpris,
épatés de voir le travail qui avait été fait, parce qu'ils s'y retrouvaient, pour beaucoup, ils s'y retrouvaient beaucoup.
Mais alors, il paraît que quand même, ils ont déclaré que leurs agents avaient plus d'humour que les personnages du Bureau des Légendes. Il les trouvait assez sérieux, c'est ça ?
Exactement. Il y a beaucoup de sérieux dans le Bureau des Légendes, mais comme dit Éric Rochant, c'est un métier sérieux. Bah. Donc c'est vrai que après une série ou un film tout court doit représenter aussi son réalisateur, et même si on peut rigoler avec Éric, il a quelque chose de très sérieux quand il entreprend des choses, et donc la série lui ressemble beaucoup aussi à ce niveau-là.
Bon, la folie du métier d'agent secret, c'est tout de même de gérer le mensonge, non seulement en mission, mais d'abord auprès de ses proches et de sa famille qui doit absolument tout ignorer. C'est quand même un métier complètement fou. L'épouse, les enfants, les parents, personne ne doit être au courant. D'ailleurs, lorsque le directeur de la DGSE va mourir en mission, lorsqu'on lui rend hommage, bon, c'est comme si on enterrait un fonctionnaire lambda. On ne sait pas qu'il dirigeait la DGSE, c'est quand même incroyable. Alors que ses proches et sa famille sont présents.
Oui.
On le voit dans la série, ça.
Mais c'est des métiers complètement fous pour ça, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer et à découvrir, en tout cas, comment ça pouvait se passer et à les rencontrer. Mais je n'aurais absolument pas pu le faire dans ma vie. C'est quelque chose. Je pense qu'il faut très clairement une nature pour pouvoir se désolidariser comme ça.
Parce que il y a à la fois, bien évidemment, le danger des missions, mais aussi une solitude extrême, n'est-ce pas ?
Oui. C'est cette solitude qui m'a le plus touchée en pensant à ce type de métier. C'est que il faut savoir se protéger de ça, et tout le monde ne peut pas le faire. Alors effectivement, là, ce qui est assez, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le rôle de Marina, c'est cette profonde solitude. Ouais. C'est cette profonde solitude qu'elle a. Alors ils existent par leurs actions, ils existent par leur métier, mais sinon on a l'impression que leur vrai moi, ou en tout cas leur vie personnelle, est totalement mis entre parenthèses jusqu'à qu'ils aient terminé leur métier de clandestin. Mmh.
Alors, Jonathan Zakaï, qui joue le rôle d'un agent dans le Bureau des Légendes, a déclaré il y a quelques jours, sur cette antenne d'ailleurs, que une saison 6 serait, je parle au conditionnel, en cours d'écriture. Alors que Jacques Audiard, en théorie, avait réalisé les deux derniers épisodes de cette série. Bon, vous savez qu'on espère tous une suite, Sarah Giraudeau. Est-ce que Phénomène a le droit de dire à ce micro si, bah oui, il y a bien une suite qu'on est en train d'imaginer en ce moment?
Bah alors, je ne sais même pas si j'aurais le droit, puisque Phénomène n'a même pas le droit d'en savoir. C'est-à-dire que peut-être
ah oui,
que Sisteron.
Oui, c'est ça. C'est génial parce que, à la DGSE, on dit le droit d'en savoir. On
le droit d'en connaître.
Le droit d'en connaître. C'est fantastique, c'est une formule vraiment des agents secrets, vous voyez.
Mais là, c'est vrai qu'on remarque du coup que Sisteron a bien plus le droit d'en connaître sur plein de choses que Marina. Donc à ce niveau-là, il en sait plus que moi, effectivement.
Mais elle est finaude, Sarah Giraudeau, comme elle est finaude. On fait une pause très courte, on la retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Sarah Giraudeau, certains pensent que la fibre artistique ne se transmet pas dans les gènes. Votre sentiment à vous, ça se transmet ou pas ?
Je pense que la fibre artistique, oui, je pense que la fibre artistique se transmet dans les gènes, mais aussi, surtout dans l'éducation. Les enfants baignent dans un univers artistique.
Vous auriez été incapable d'exercer sur la durée un métier qui ne s'exprime pas artistiquement ?
J'aurais été incapable, je pense, d'être dans une vie réelle sans avoir l'artistique pour me transporter ailleurs.
Ouais. Alors, vous aimez passionnément le cinéma, mais j'ai appris que vous n'étiez pas du tout cinéphile. C'est étonnant.
C'est vrai que je choisis les films. Je suis pas avide de regarder énormément de films parce que Bah, parce qu'à un moment donné, j'ai les rares fois où je regardais beaucoup, 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 beaucoup pendant dans une période, j'ai l'impression tout d'un coup d'être noyée dans beaucoup d'histoires, alors que j'aime bien les sacraliser un petit peu. Alors effectivement, quand je vois des choses pas bien, je peux vite réenchaîner sur d'autres choses.
Mais le dernier coup
mais
de
par
cœur,
exemple, quand j'ai vu
exemple,
un très bon film.
Le dernier coup de cœur.
Oh, le dernier coup de cœur, qu'est-ce que j'ai. Alors là, j'ai vu Adolescente dernièrement, un film qui était sur la plateforme des Césars,
Oui.
qui est un. J'aime beaucoup les documentaires, donc ça m'a intéressée et j'aime beaucoup l'adolescence. C'est un des âges qui me passionne le plus, donc j'ai été très attirée par ce film et je l'ai trouvé très joli. J'ai
Vous
trouvé que
avez.
c'était un très 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 bel, très beau tableau d'une adolescence triste. Ces adolescences, ces petites vies d'adolescentes dans ces petites villes de France.
Vous dites, Sarah Giraudeau, que vous aimez beaucoup regarder les documentaires, mais vous en avez signé un de documentaire.
Oui, j'en ai
Dit-elle
signé un sur le
avec
rire
un
médecin.
grand sourire.
Sur le rire médecin, qui a été la plus belle expérience de ma vie.
C'est
Donc,
vrai.
oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai été attirée par le documentaire parce qu'il y a une vérité qu'on doit mélanger à une fiction, forcément, mais réussir à faire de belles images, à provoquer de belles émotions en partant de la réalité, je trouve que c'est très difficile. Il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup d'observation. Et j'aime énormément l'observation. Et c'est vrai que, voilà, donc mon dernier petit coup de cœur a été et relié à ce film Adolescente où on sent cet homme qui a eu une observation très sensible des gens qui filment.
Alors, Sarah Giraudeau, quand vous ne travaillez pas et que les avions décollent, ce qui est compliqué aujourd'hui, il est un endroit au monde que vous aimez depuis l'enfance et qui se trouve au sud du Sénégal, c'est la Casamance. C'est votre père qui vous a appris à aimer ce pays?
C'est ma mère.
C'est votre
C'est ma mère qui
maman.
a découvert ce pays en premier,
C'est
qui a
vrai.
emmené mon père, qui au
Où il
début
a
n'aimait
tourné
pas
son
du tout.
film, c'est ça?
Exactement, et qui en fait
D'accord.
après est tombé amoureux lui aussi de ce pays et de l'Afrique tout court. Et c'est vrai que comme nous, avec mon frère, on nous y a emmenés très jeunes. J'ai grandi un petit peu avec ces odeurs, avec cette ambiance, avec ce rapport au temps qui maintenant dans ma vie sont des sas
Oui,
extrêmement libérateurs.
le temps long.
Le rapport au temps, en Afrique, le rapport au temps est tout autre que chez nous. Ce qui peut même parfois un petit peu énerver, parce que c'est vrai que la ponctualité, l'exigence sur les horaires, n'existe pas. Il y a quelque chose qui se languit un petit peu tout le temps. Et donc, pour des Européens qui ont une vie très très active et très rapide, on a beaucoup de chance. C'est un pays où on peut se ressourcer énormément, parce que ce rapport au temps et à l'échange avec l'autre est tout autre.
Donc, dès que vous le pouvez, vous emmenez toute votre tribu d'amour, c'est-à-dire votre homme, vos filles, votre frère, votre maman, Annie Dupérez, en Casamance, c'est ça?
Quand on peut, on s'en va. Alors oui, bon, parfois c'est tous les 2 ans. Quand on a de la chance, c'est tous les ans. Mais ça dépend. Ça dépend. Mais c'est quand je peux, on peut, on y court.
Il semblerait, Sarah Giraudeau, que en fait, vous n'aimiez pas trop notre époque auto-centrée. Notre époque avec ces faux miroirs que sont Facebook et Instagram. Contrairement à beaucoup d'acteurs et d'actrices, vous, vous faites sans, n'est-ce pas?
Ah, je fais sans. Je fais sans, sans, sans. Sans, je hais ça.
Ah,
C'est
carrément.
une, c'est une. Ah oui, je. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être spectatrice et tout à fait admirative de ce que Internet et les réseaux sociaux ont pu apporter de bon, mais ce qu'ils ont pu apporter de bon par rapport à ce qu'ils ont pu apporter de désavantageux et de toxique pour la société est tellement petite que je préfère ne pas prendre ce qui est bon. Ce qui est bon, je peux le trouver ailleurs en fait, mais tout ce qui est mauvais, on ne peut le trouver que sur les réseaux sociaux et je préfère m'en passer, ça c'est clair.
Alors, parlons de
C'est un peu
choses.
violent, hein, pardon.
Non, 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 mais ça a le mérite d'être franc. Et c'est ça que j'attends de vous. Alors, Sarah, vous nous avez dit tout à l'heure que vous attendiez des tournages qui doivent débuter au printemps. Les projets de cinéma vraiment que vous attendez avec le plus d'impatience, avec une impatience fiévreuse, sont lesquels alors ? Racontez-nous.
Alors avec impatience, j'attends la sortie d'un film que j'ai tourné l'été dernier qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman, qui était un film que j'ai trouvé magnifique, mais je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sortira. Certainement en novembre prochain. Après les tournages qui arrivent, ce sont deux premiers films, un homme, une femme. Donc je suis dans des terrains que j'adore. Les premiers films, ce sont souvent des premières histoires d'amour pour les réalisateurs. C'est des premières histoires dans lesquelles ils mettent toutes leurs énergies, tout leur cœur. Et j'aime souvent profondément participer à des premiers films quand ils sont bien réfléchis, qu'ils ont une belle réflexion comme ceux que je vais tourner là au printemps. Donc il y a un premier film de Léopold Legrand qui s'appelle Pleurer des rivières pour l'instant, et puis un autre film de Muriel Magellan qui est romancière à la base, et puis qui là va réaliser son premier film qui s'appelle La page blanche.
Eh bien, ces réalisateurs ont beaucoup de chance d'avoir Sarah Giraudot pour leur premier film. Sarah, je vous remercie de vous être ainsi livrée avec autant de naturel, de générosité, de sincérité. Ça ne m'étonnait pas, c'était formidable. Donc, écoutez, j'aperçois, parce qu'il y a un zoom dans le coin du studio d'Europe 1 sur votre bureau avec un rayon de soleil. Sarah nous a parlé avec le smartphone à l'oreille pendant une heure. Merci infiniment. Et puis, je rappelle que tous les podcasts du Théâtre du Rond-Point sont à écouter sur leur site, bien sûr. Et puis nous, on attend de vous retrouver à la fois, dans les salles, sur grand écran, et puis au théâtre. Merci Sarah Giraudot.
Merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt.
15h, 16h, avec Isabelle Morizet.